Que pensait l'intelligentsia romaine du christianisme au second siècle de notre ère? Eh bien, un certain Celse, philosophe de son état, prend violemment à partie les chrétiens en 178, déclarant que ce sont des traits de misère sans instruction. Dans sa diatribe, il les traite de vulgaires et les compare à une nuée de chauves-souris, à des fourmis rampantes qui sortent de leur nid et à des grenouilles réunies en colloque dans un marais boueux. Tout ça parce qu'une majorité de croyants sont effectivement de conditions humbles. Mais le vrai scandale éclate quand, dans les assemblées de croyants, certains méprisent les plus pauvres tout en usant de favoritisme envers les riches dans le but de leur soutirer quelques deniers. On peut les imaginer faisant des courbettes et beaucoup de gigi. Remarquez bien que de telles minauderies sont toujours en vogue. Je continue de lire dans le second chapitre de l'épître de Jacques. Ce sont pourtant les riches qui vous oppriment et qui vous traînent en justice devant les tribunaux. Ce sont encore eux qui outragent le beau nom que l'on a invoqué sur vous. Le verbe pour opprime signifie tyranniser. Les gens riches ont en effet les moyens d'utiliser la loi pour saisir le peu de biens que possèdent les misérables, trop pauvres, pour pouvoir se défendre. Pire encore, ils outragent, littéralement blasphèment, le beau nom. Il s'agit bien sûr de Jésus-Christ que les ennemis de l'Évangile diffament. Sous l'Ancienne Alliance, quand le nom de l'Éternel est invoqué sur un homme, il devient la possession de Dieu. Le nom de Jésus est donc hautement significatif pour des chrétiens. Et ce sont surtout des riches et des puissants qui se moquent de Jésus et des croyants, et qui sont à l'origine de l'hostilité envers les chrétiens. À chaque époque, ceux qui font partie de la classe des Sadducéens sont de riches aristocrates très sécularisés sous un vernis religieux. Comme ils persécutent l'Église primitive, il est fort possible que Jacques les a dans le collimateur. Les Sadducéens prétendent adhérer à la loi de Moïse, mais c'est de la prime, car en réalité, ils ne croient ni à l'existence des anges, ni à la résurrection, ni à l'immortalité de l'âme, ni au jugement, et ni au ciel. Je continue. Si au contraire, vous conformez à la loi du royaume de Dieu, telle qu'on la trouve dans l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, alors vous agissez bien. Mais si vous faites des différences entre les personnes, vous commettez un péché et vous voilà condamné par la loi parce que vous lui désobéissez. Un jour, un hypocrite de première catégorie tend un piège au Seigneur en lui demandant « Maître, quel est, dans la loi, le commandement le plus grand ?» Et Jésus lui répondit « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et il y en a un second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu'enseigne la loi et les prophètes est contenu dans ces deux commandements. » Dans son épître aux Galates, l'apôtre Paul écrit que la loi se trouve accomplie tout entière par l'obéissance à cette seule parole. Aime ton prochain comme toi-même. Et aux Romains, il écrit, celui qui aime ne cause aucun mal à son prochain. Aimer son prochain, c'est donc accomplir toute la loi. L'amour pour Dieu et du prochain sont les deux commandements qui résument toute la loi. Contrairement à une certaine psychologie narcissique en vogue, je ne dois pas commencer par m'aimer moi-même avant de pouvoir aimer mon prochain. Car s'aimer soi-même est propre à la nature humaine. C'est inné et instinctif. Aux Éphésiens, l'apôtre Paul écrit que personne n'a jamais haï sa propre chair, au contraire. Chacun la nourrit et l'entoure de soins. En effet, tout croyant qui accepte le verdict des Écritures sait très bien qu'il n'est qu'un vil et misérable pécheur qui ne mérite que la condamnation, et que ce n'est qu'en vertu de la grâce et de l'amour incommensurable de Dieu et du sacrifice de Jésus qu'il est sauvé et destiné à régner dans le royaume des cieux. Celui qui fait des différences entre les personnes, c'est-à-dire qui montre du favoritisme envers les riches, prouve au minimum qu'il n'a pas d'amour pour les pauvres et au pire, qu'il les méprise. Il transgresse donc la loi. La forme grammaticale de la phrase décrit un favoritisme flagrant et systématique tel qu'on le trouve chez les non-croyants. Je continue le texte. En effet, celui qui désobéit à un seul commandement de la loi, même s'il obéit à tous les autres, se rend coupable à l'égard de toute la loi. Jacques est conscient que certains de ses lecteurs pensent que leurs préjugés sont un simple manque de courtoisie, mais qu'ils ne transgressent pas la loi. Pourtant, dit Jacques, il ne s'agit pas d'une petite offense, mais d'un péché grave. En effet, la loi forme un tout indivisible qu'on peut comparer à une chaîne faite de maillons. Vous en brisez un et toute la chaîne est détruite. Certes, il y a des fautes qui sont plus graves que d'autres. Cependant, il ne suffit pas de désobéir au moindre des commandements de Dieu pour briser l'unité de sa loi sainte et ainsi devenir un transgresseur de toute la loi. Aux Galates, l'apôtre Paul écrit « Ceux qui comptent sur leur obéissance à la loi tombent sous le coup de la malédiction, car il est écrit « Maudit soit l'homme qui n'obéit pas continuellement à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. » Pour étayer son argument, Jacques cite des paroles de Moïse. Car celui qui a dit « Tu ne commettras pas d'adultère » a dit aussi « Tu ne commettras pas de meurtre ». Si donc, tout en évitant l'adultère, tu commets un meurtre, tu désobéis bel et bien à la loi. Jacques choisit deux péchés pour lesquels le châtiment est la peine capitale pour bien souligner que ceux qui usent de favoritisme envers les riches, aux dépens des pauvres, sont grandement coupables devant Dieu. Les Juifs considèrent la loi comme une série de commandements indépendants les uns des autres. Ceux auxquels ils obéissent leur donnent bonne conscience, une bonne note en somme, et les commandements qu'ils violent leur donnent une mauvaise note. Ils croient que si leur solde est positif, ils sont en règle avec Dieu. Mais s'il est négatif, ils sont rejetés. Il faut donc essayer de faire pencher la balance du bon côté. On trouve cette manière de penser dans tous les systèmes religieux. La substantifique moelle de cette croyance est que l'homme devient juste par sa façon de se comporter, et Dieu le juge selon sa conduite morale. Mais Dieu n'est pas un marchand de tapis avec qui on fait du troc. La loi qu'il a donnée aux Juifs doit être obéie dans sa totalité. Il n'y a pas d'exception et aucune entorse n'est tolérée. Il n'existe pas de petits péchés sans conséquence et toute violation entraîne un châtiment. La loi est comme une clôture. Quel que soit l'endroit où je la franchis, toute la clôture est franchie. Je continue le texte. Parlez et agissez donc comme des personnes appelées à être jugées par la loi qui donne la liberté. Puisque montrer du favoritisme est une faute grave, Jacques termine ce sujet en avertissant ses lecteurs du danger d'être jugés par Dieu afin qu'ils renoncent à ce péché. Il veut qu'ils se mettent en règle avec Dieu et se comportent comme des vrais croyants, sauvés par sa grâce et qui seront jugés en fonction de leur conduite envers les faibles et les démunis. Ce jugement peut déjà commencer ici-bas, mais de toute façon, il y en a un autre dans l'au-delà. Dans sa seconde épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul écrit « Nous aurons tous à comparaître devant le tribunal du Christ, et chacun recevra ce qui lui revient selon les actes bons ou mauvais qu'il aura accomplis par son corps. » Au moment de ce grand règlement de compte, ce qui est décidé n'est pas l'obtention du salut puisqu'il dépend uniquement de la foi en l'œuvre accomplie une fois pour toutes par Jésus-Christ sur la croix. Ce jugement détermine qui reçoit ou pas des récompenses et combien. La loi, qui donne la liberté, est l'ensemble des règles morales et spirituelles auxquelles tout croyant doit se conformer. Ceux qui placent leur confiance en Jésus-Christ et qui lui obéissent sont affranchis de l'esclavage du péché, du châtiment éternel, et sont rendus capables d'obéir à Dieu. L'homme régénéré désire lui plaire, et la loi lui montre ce qu'il souhaite accomplir. Le chrétien n'est pas comme un chien lié au char de Zeus, car il choisit joyeusement de suivre sans être lié. Il est donc véritablement libre, et les exigences de la vie chrétienne envers ceux qui ont accepté Jésus comme leur sauveur et Seigneur s'appellent, à juste titre, une loi de liberté. Obéir à la loi n'est pas une contrainte. Si demain on supprimait l'obligation d'obéir au code de la route, je resterais chez moi car j'aurais perdu la liberté de circuler en toute tranquillité. Je continue le texte. Dieu jugera sans pitié celui qui n'a témoigné aucune pitié aux autres, mais la pitié triomphe du jugement. Tout comme l'amour triomphe des préjugés, la miséricorde triomphe du jugement. Ici, Jacques s'adresse à des Juifs qui, de toute évidence, ne sont pas croyants. Leur vie consiste à manipuler leur prochain, c'est-à-dire à favoriser les riches pour leur soutirer quelques avantages. En contrepartie, ils sont durs et sans pitié envers les pauvres. Égocentriques, ils ne reflètent pas l'amour et la bonté de Dieu envers ceux qui sont dans le besoin. Montrer du favoritisme est incompatible avec l'amour de Dieu, avec l'amour pour Dieu et son prochain. La foi authentique est testée par une miséricorde désintéressée. Mais celui qui ne l'exerce pas ainsi n'a pas l'amour de Dieu en lui. Je continue. Mes frères, à quoi servirait-il à un homme de dire qu'il a la foi s'il ne la démontre pas par ses actes? Une telle foi peut-elle le sauver? L'emploi de l'expression « mes frères » indique un changement de thème. Jacques commence par poser une question dont la réponse ne peut être que non. Il ne parle pas ici de quelqu'un qui a la foi, mais qui dit l'avoir et n'en donne jamais la preuve. Jacques dénonce donc une fausse confession de foi et l'hypocrisie d'une croyance doctrinale qui est peut-être correcte, mais qui ignore la nécessité de s'engager à la suite du maître. Jean rapporte que Jésus a dit à ceux qui déclarent croire en lui. Si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples. La foi authentique en Jésus est attestée par ce que le prétendu croyant fait, plutôt que par ce qu'il dit. Si sa façon de vivre n'honore pas son maître, c'est un faux, un imposteur. Cela dit, il faut encore rappeler que le salut se tient exclusivement par la foi. Dans son épître aux Galates, l'apôtre Paul déclare sans équivoque. Nous avons compris que l'on est déclaré juste devant Dieu, non parce que l'on accomplit les œuvres que commande la loi, mais uniquement par la foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous avons nous aussi placé notre confiance en Jésus-Christ pour être déclarés justes par la foi, et non parce que nous aurions accompli ce qu'ordonne la loi. Car comme le dit l'Écriture, personne ne sera déclaré juste devant Dieu parce qu'il aura accompli ce qu'ordonne la loi. L'homme ne peut pas acquérir le statut de juste et la vie éternelle en obéissant même parfaitement à la loi de Dieu parce qu'il en est absolument incapable. Et il ne lui est pas possible d'obtenir le salut par une obéissance partielle, car Dieu ne peut pas accepter autre chose que la perfection même. Ce n'est pas non plus en ajoutant à sa foi une certaine quantité de bonnes œuvres qu'on peut être sauvé. Voilà pourquoi il fallait que Jésus prenne sur lui le péché de l'homme condamné et lui donne sa justice en échange. Le salut par la foi, mais si elle est authentique, elle produit inévitablement des bonnes œuvres, ce que tous les auteurs du Nouveau Testament mentionnent, et fréquemment. comme je l'ai déjà dit, Paul et Jacques ne s'opposent pas dans leurs enseignements, mais se tiennent dos à dos pour lutter contre deux ennemis. Paul se bat contre le légalisme qui consiste à essayer d'être juste devant Dieu en obéissant à la loi. Et Jacques s'oppose à la croyance, à la confession de foi qui n'est que verbale et stérile et qui n'engage pas la vie quotidienne de la personne qui prétend avoir la foi. Je continue le texte. Supposez qu'un frère ou une sœur manque de vêtements et n'ait pas tous les jours assez à manger. Et voilà qu'un l'un de vous lui dit « Au revoir, mes amis, portez-vous bien, restez au chaud et bon appétit », sans leur donner de quoi pourvoir aux besoins de leur corps. À quoi cela sert-il? L'apôtre Jean pose à peu près la même question quand, dans sa première épître, il écrit « Si un homme riche voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il être présent en lui ?» Après avoir simplement dit qu'une foi sans œuvre est vaine, Jacques précise sa pensée avec une illustration hypothétique mais réaliste. Ici encore, il prend la situation d'un miséreux parce qu'ils sont nombreux parmi les croyants du premier siècle et lui se soucie beaucoup de leur bien-être. Pour celui qui manque de l'essentiel pour vivre, les vœux pieux, comme la salutation juive « Shalom, allez en paix » ou de dire « Que Dieu vous bénisse », non seulement ne servent à rien, mais de tels vœux sont absurdes et insultants pour quelqu'un qui manque de vêtements et qui n'a pas de quoi se nourrir convenablement. La forme grammaticale des expressions « Portez-vous bien, restez au chaud et bon appétit » exprime une attitude sarcastique et cruelle qu'on peut traduire par « chauffez-vous vous-même et rassasiez-vous vous-même », ce qui est une autre manière de dire « débrouillez-vous, faites donc le nécessaire et laissez-moi tranquille ». Au temps lointain, où la royauté était la mode en Europe, une reine laisse son cocher assis dehors en plein hiver pendant qu'elle assiste à une représentation théâtrale. La pièce qu'elle regarde est tellement touchante qu'elle pleure tout au long du spectacle. Quand elle revient à son carrosse, elle découvre que son cocher est mort de froid. Indifférente à son sort et furieuse, elle ne verse pas une larme. Elle avait été bouleversée par une tragédie fictive, mais elle est totalement insensible à une vraie tragédie qui la concerne pourtant puisqu'elle est directement responsable. Il n'est pas rare que quelqu'un soit profondément affecté en regardant l'histoire émouvante à la télé, mais reste de marbre devant la détresse de quelqu'un qu'il rencontre, comme le clodo qui fait la manche et qu'il voit tous les jours dans la bouche de métro. Jean rapporte que Jésus a dit « À ceci nous reconnaîtrons que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » Et aux Romains, l'apôtre Paul écrit « Ne restez redevable de rien à personne, sinon de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime l'autre a satisfait à toutes les exigences de la loi. » Je continue le texte. Il en est ainsi de la foi. Si elle reste seule, sans se traduire en acte, elle est morte. La foi seule sauve, mais la foi qui sauve ne reste pas seule. La foi qui a le temps de s'exprimer par des œuvres, mais qui n'en saisit pas les occasions, est improductive et stérile. Ce n'est pas la vraie foi, mais une croyance morte et donc inutile. On peut toujours affirmer avec fanfare et trompette retentissante qu'un mort est revenu à la vie, mais s'il ne bouge pas et ne montre aucun signe vital, s'il n'a ni pouls ni battement de cœur, il est toujours mort. L'évidence contredit les fausses affirmations ronflantes. Je continue. Mais quelqu'un dira, « Toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, par mes œuvres, je te montrerai ma foi. » une personne imaginaire se joint à la conversation. C'est en fait Jacques qui se dédouble et qui s'adresse à quelqu'un qui prétend que la foi se suffit à elle-même. Jacques lui lance un défi et lui dit « Toi, tu prétends que tu as la foi et moi, je pratique des œuvres. Alors montre-moi ta foi sans les œuvres, si tu peux, mais j'en doute. Et moi, par mes œuvres, je te montrerai ma foi. » En réalité, ce n'est pas possible de prouver la foi sans des actes concrets qui en sont la manifestation pratique et visible. La foi réelle donne toujours des preuves de son authenticité. Comme Jacques l'a déjà dit, si la foi reste seule sans se traduire en acte, elle est morte, c'est-à-dire elle est fausse, elle n'existe pas. Je continue. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, c'est bien, mais les démons aussi le croient et ils tremblent. Jacques sort à l'artillerie lourde et tire un argument canon. La déclaration, c'est bien, et un sarcasme dirigé contre une orthodoxie morte comme celle des Juifs. En effet, ils connaissent par cœur la Shema, qui sont les deux premiers mots du passage du livre du Deutéronome qui dit « Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, il est le seul Éternel. » Eh bien, les démons aussi peuvent réciter la Shema par cœur, et leur doctrine est exacte. Aucun esprit ne doute qu'il y a un seul vrai Dieu, et tous savent que les Écritures sont la parole de Dieu, que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour expier les péchés des hommes, et qu'il a été enseveli et est ressuscité, qu'il est monté au ciel et est maintenant assis à la droite du Père, et que le salut s'obtient uniquement par grâce, par le moyen de la foi. Ils savent aussi qu'il y aura un jugement. Ils connaissent tout cela et bien d'autres choses sur le bout des doigts. Mais toute cette orthodoxie, aussi importante soit-elle, ne leur est d'aucune utilité. Au contraire, ils tremblent de peur parce qu'ils savent aussi que la rédemption accomplie par le Christ n'est pas pour eux. Contrairement aux êtres humains qui vivent dans le temps, les esprits existent hors du temps. Alors, ceux qui ont choisi de suivre Satan sont devenus des démons, et leur sort éternel est scellé de manière irrévocable. Les démons tremblent. Ce verbe n'apparaît qu'ici dans le Nouveau Testament, mais il est couramment utilisé dans le monde gréco-romain pour décrire l'effet produit par la peur. Les démons ont au moins le bon sens de craindre Dieu, car ils savent que le jugement les attend. À cet égard, ils sont bien plus réalistes et sensés que les humains qui croient pouvoir échapper au jugement de Dieu sans posséder la foi authentique qui sauve.